Voilà, donc aujourd'hui qu'on a dit, on veut faire un culte un peu différent. Des fois, on a besoin un peu de changer pour pas que qu'on reste dans une routine, qu'on a l'habitude de faire certains chants après témoignages, prières, prédications. Mais on veut vraiment ce matin aussi, je pensais aussi le fait qu'on va prendre aussi le repas du Seigneur tout à l'heure, d'inclure dans le sujet que nous allons partager aujourd'hui, d'inclure aussi le repas du Seigneur afin qu'on puisse saisir encore profondément ce que Jésus est venu faire pour nous. Cette semaine, j'ai pris du temps avec le Seigneur pendant 2 jours. J'étais à l'extérieur, dans un bel endroit, tout près de Joliette, dans un camp de retraite catholique qui offre justement des lieux pour pouvoir simplement se retirer dans une petite cabane bien simple, mais où il y avait tout pour pouvoir simplement rester là à écouter. Pris la parole de Dieu, la parole, pris la Bible, pris quelques livres chrétiens et simplement dire: Seigneur, je veux venir devant toi. Je laisse le cellulaire de côté, je laisse toutes les activités régulières du ministère pour dire: Seigneur, je viens devant toi. Je suis là pour m'attendre à toi. Je veux t'écouter, je veux prier, je veux rester dans ta présence. Et moi-même, j'ai beaucoup besoin de cela parce que c'est vrai que autant de vous que vous, hein, on vit tellement de choses rapides dans nos vies de tous les jours que c'est difficile des fois de prendre un véritable temps avec le Seigneur. On est toujours bousculé par le programme, par le travail, par la famille. Et des fois, de simplement se retirer un ou 2 jours, c'est toujours bon. Alors, si vous voulez avoir l'adresse, c'est un très bel endroit, pas très cher, mais surtout, ça permet vraiment de se focusser sur l'Éternel. Et durant ce temps-là, j'ai ressenti que le Seigneur nous disait vraiment de reprendre et de prendre dans ces prochains temps vraiment l'importance sur la prière, l'importance sur le jeûne. Donc, on va vous l'expliquer tout à l'heure aussi dans les annonces, ce que nous allons faire par la suite. Mais on va reprendre justement ce texte de 2 Chroniques 7, 14 que nous avons étudié à peu près 15 jours. Pour voir justement plus en profondeur qu'est-ce que ce texte veut nous dire pour nous aujourd'hui et qu'est-ce que le Seigneur veut nous parler à travers ce texte. Alors, ouvrons notre Bible justement dans 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, afin qu'on puisse voir ce que le Seigneur veut nous dire ce matin. Donc, prochain dia, donc on connaît bien ce texte, hein. 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, qui dit: Si alors mon peuple, qui est appelé de mon nom, s'humilie, prie et recherche ma face, s'il se détourne de sa mauvaise conduite, moi, je l'écouterai du ciel, je lui pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. Si alors mon peuple, qui est appelé de mon nom, s'humilie, prie et recherche ma grâce, s'il se détourne de sa mauvaise conduite, moi, je l'écouterai du ciel, je lui pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. Ce matin, on va surtout regarder le mot humilité. Le mot humilité. Donc, si on regarde un peu le contexte de ce verset ou de ce chapitre, Salomon vient de terminer de construire le temple de l'Éternel à Jérusalem. Ça a pris vraiment des années, beaucoup d'années, parce que c'était un profond désir aussi du cœur de David, donc le père de Salomon, le roi David, qui voulait lui-même construire ce temple en l'honneur de l'Éternel. Mais Dieu, on le sait, l'a empêché. Parce que même si David était un homme selon le cœur de Dieu, c'était un homme de guerre, un homme qui avait dû faire beaucoup de guerres pour asseoir son autorité, pour permettre que son peuple puisse reposer en paix dans le territoire. Donc Dieu dit à David que c'est Salomon, son fils, qui va hériter après le trône, qui va le construire. Et lorsque justement Salomon termine ce temple, il va consacrer ce temple et faire une prière puissante qu'on retrouve dans le chapitre 13. Alors, ouvrons notre Bible justement dans le chapitre 13, on voit justement que Salomon est en train de faire une prière, une demande à l'Éternel par rapport à tout ce que le Seigneur lui dit dire dans son cœur. Et tout au début du chapitre 14, on voit la réponse de l'Éternel. Dans le chapitre 14, versets 1 à 3. On voit la réponse de Dieu à cette prière, à cette dédicace du temple. Verset 1. Lorsque Salomon eut terminé sa prière, le feu tomba du ciel et consuma l'holocauste ainsi que les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit le temple. Les prêtres ne pouvaient pas entrer dans le temple de l'Éternel car la gloire de l'Éternel avait rempli l'édifice. Tous les Israélites virent descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur le temple. Ils s'inclinèrent le visage contre terre, sur le dallage du parvis, se prosternèrent et se mirent à louer Dieu en disant, oui, il est bon, oui, son amour est éternel. Imaginez que ça a pris des années à construire ce bâtiment. Et lorsque il le dédicace, lorsque tout le peuple est là devant, et lorsque Salomon termine cette prière de confession, d'intercession pour que le Dieu puisse bénir ce lieu, que Dieu puisse venir dans ce lieu pour être dans sa présence, à ce moment-là, la gloire de l'Éternel descend. La gloire de l'Éternel descend, consume tous les holocaustes, mais il y avait tellement la gloire, tellement grande que même justement les sacrificateurs n'ont même pas pu continuer le travail, tellement que la gloire était là. Tout le monde a vu cette magnificence de Dieu se déverser sur le temple. Et chacun a reconnu la majesté, la grandeur de Dieu en s'inclinant et en l'adorant. C'est un peu comme aussi aujourd'hui nous sommes dans la maison de l'Éternel parce que même si les cours faits d'hommes, mais nous sommes ici ce matin parce qu'on croit que c'est bon en tant qu'Église de se rencontrer. Et son esprit est là en nous et autour de nous. Il veut nous bénir, nous démontrer qu'il est tout, qu'il peut tout. Encore aujourd'hui, nous devons encore l'adorer, lui démontrer que nous voulons nous incliner devant cette majesté, de reconnaître que nous sommes poussière devant sa grandeur, de lui donner toute la gloire qui lui est due. Alors si au prochain vers, si on continue justement dans la lecture du chapitre 14, on voit au verset 10 que Salomon donc va renvoyer le peuple après ce temps dédicace. Ça a pris plusieurs jours de dédicace, de joie, de célébration. Et les gens étaient contents avec le cœur joyeux de tout ce qu'ils avaient vécu à Jérusalem. Et ils retournent chez eux. C'est un peu comme aujourd'hui, hein, on est tous ici aujourd'hui ensemble pour célébrer le nom du Seigneur. On a la joie de revoir nos amis, nos frères et sœurs dans le Seigneur. On vit quelque chose de beau à travers la louange, à travers l'enseignement, les partages, les prières. Et ensuite, on retourne chez nous avec cette joie, avec cette paix que le Seigneur nous a donnée. Tout ce qu'on a vécu avec le Seigneur, qu'on a vécu aussi les uns avec les uns les autres. Et là, dans la nuit, Dieu parle avec Salomon. Et lui dit ce verset important justement de 2 Chroniques 7, 14. Il va dire et redire l'importance de rester attaché à lui, de ne pas se détourner pour adorer d'autres idoles. Sinon, la conséquence de ce mal, de cet abandon de Dieu sera que le peuple sera déporté loin d'Israël. Donc on voit que Dieu va avertir, ce n'est pas la première fois. Moi, de ces temps, je suis en train de lire Jérémie et je vois comment ce prophète, durant toute sa vie, a averti le peuple, changez de comportement. Vous êtes en train de faire le mal, voilà la conséquence, vous allez être déporté. Mais malgré cela, le peuple a continué dans son péché et on sait que c'était déporté. Donc Dieu avertit Salomon, lui dit, oui, je vais habiter dans ce temple, mais il faut que vraiment mon peuple puisse m'honorer vraiment, pas juste du bout des lèvres, mais vraiment d'un cœur repentant, d'un cœur complet. Le commentateur biblique McDonald va dire par rapport à ce verset, il dit « Israël devait faire preuve d'obéissance à Dieu pour que le royaume soit affermi et ne connaisse pas d'interruption dans la succession monarchique. » C'est-à-dire de toujours avoir un descendant de David sur le trône. Or, l'histoire témoigne de la désobéissance chronique du peuple ainsi que de la fin du royaume et de sa dispersion. On sait que justement, à un moment donné, le roi de Babylone est venu envahir, a détruit même le temple, a détruit Jérusalem et a déporté tout le peuple pour un certain nombre d'années dans son pays. Les prophètes sont là pour avertir le peuple, comme on l'a dit, mais malheureusement, le peuple n'a pas écouté. Aujourd'hui, nous avons sa parole, nous avons tous les écrits, que ce soit dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, qui nous avertissent de justement d'avoir toujours ce cœur ouvert vers le Seigneur, de toujours avoir ce désir de se repentir, toujours dans l'humilité, afin qu'on puisse reconnaître que Dieu est grand, de pouvoir marcher de façon juste dans sa parole. Voilà pour aujourd'hui, on peut facilement, c'est vrai, critiquer le peuple d'Israël, dire ben, peut-être que malgré tout ce qu'ils ont vécu de puissance, de bonté, de la grâce de Dieu, ils ont péché. Nous sommes des humains et nous sommes comme eux. Et nous ne pouvons pas être meilleurs parce que bien souvent, en tant que personne, on pêche, bien souvent, on se détourne de Dieu. Bien souvent, notre foi se transforme en quelque chose d'habituel, de routinier. On a besoin encore de nous rappeler, comme le Seigneur dit, Il faut venir vers le Seigneur. Il faut rechercher sa face afin que nous puissions être délivrés, changés par le Seigneur. Donc, prochain diable, on va voir que justement l'humilité est un terme qui est aussi associé à Dieu. Et on le voit beaucoup dans ce temps de fin d'année avec les rappels de la naissance de Jésus. Alors, je vais prendre quelques textes de la vie de Jésus pour nous rappeler comment que Jésus, justement, a tout été dans tout, dans toute sa vie, a été humble. Donc, on sait que Dieu qui a créé le ciel et la terre, qui est au-dessus de tout, qui est éternel, qui est tout-puissant. On dit qu'il est omniscient, qui veut dire qu'il sait tout. Il est omniprésent, ça veut dire qu'il est partout en même temps. Qu'il est omnipotent, ça veut dire qu'il est tout-puissant. On sait toutes ces choses, comment que le Seigneur est grand et puissant. Mais il a accepté de se rabaisser pour venir à notre niveau, à nous en tant qu'humains, afin qu'on puisse justement nous montrer son amour, afin qu'il puisse nous montrer le chemin du salut vers lui. Et on le voit à travers la naissance de Jésus. Ouvrons notre Bible dans Luc chapitre 2, versets 6 et 7. Luc chapitre 2, versets 6 et 7, qui nous montre comment que justement, dès le début, Jésus, lui le Fils de Dieu, Dieu lui-même, qui est venu sur terre, est venu tout humblement. Verset 6. Or, durant leur séjour à Bethléem, arriva le moment où Marie devait accoucher. Elle mit au monde un fils, son premier-né. Elle lui mit des langes et le coucha dans un mangeoir parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la pièce réservée aux autres. Il n'y avait pas de place pour eux dans la pièce réservée aux autres. Lui, on le voit dans le verset 7, lui, le Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le roi des rois, n'était pas né dans un palais, même pas dans une belle maison, même pas dans une chambre normale, mais dans une crèche, dans une étable au rang des animaux. Donc on voit dès le début comment que Jésus n'est pas venu sur terre avec orgueil, avec éclat, mais qu'il est venu en toute discrétion. Regardons d'autres textes justement qui démontrent l'humilité de Jésus. Par exemple, lors de la venue de Jésus vers la fin de son ministère sur terre, où il est acclamé par la foule. Regardez justement ce que dit Zacharie. Zacharie, chapitre 9, verset 9. Zacharie, des centaines d'années auparavant, a déjà prophétisé comment que Jésus-Christ allait venir. Et Zacharie, chapitre 9, verset 9, qui dit « Tressaille d'allégresse aux communautés de Sion, pose des cris de joie aux communautés de Jérusalem. » Car ton roi vient vers lui, ton roi, il est juste et victorieux, humilié, monté sur un ânon, le petit d'Anès. Rappelez-vous qu'il prophétise dans les derniers moments où Jésus va monter à Jérusalem quelques instants avant de mourir sur la croix. Lui, le Fils de Dieu, le conquérant, le roi, au lieu de venir sur un cheval qui était le signe de prestige, de royauté de la part de ceux qui venaient conquérir un pays, il vient sur simplement un petit âne. Même s'il a été exalté, béni, on l'a dit, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, mais il vient simplement en toute humilité. Prochain diable, on voit aussi que, justement, quelques instants plus tard, lorsque il est sur la croix, lui qui est prêt, lui qui est juste, lui qui est le Dieu Tout-Puissant, il est prêt à se rabaisser pour mourir sur la croix, pour nous donner la vie. Philippiens chapitre 2, verset 8. Philippiens chapitre 2, verset 8. Il y est dit, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Même devant l'injustice, devant la souffrance que Jésus vit, lui qui est juste, lui qui est sans péché, Jésus est resté humble jusqu'à la fin. Tout à l'heure, on va se rappeler à travers justement la Sainte Cène, comment que se rappelle pour nous rappeler justement comment que Jésus veut encore qu'on se rappelle tout ce qu'il a fait sur la croix. Mais on doit se rappeler que Jésus est l'exemple ultime d'humilité qu'il nous a démontré. Donc on voit qu'à travers tous ces différents versets, il y en aurait bien d'autres, comment que Jésus, depuis sa naissance, jusqu'à sa mort, est resté dans une attitude d'humilité. Donc, même si aujourd'hui il est au-dessus de tout, il est dans toute sa toute-puissance dans le ciel avec son Père, sa vie et son caractère est imprégné de l'humilité. Et Jésus va lui dire lui-même comment qu'il est lui-même, qu'on doit pouvoir s'approcher de lui sans crainte. Regardez justement dans Matthieu chapitre 11, verset 29. Matthieu chapitre 11, verset 29. Il dit « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. » car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Donc Jésus va dire de lui-même, et que nous venons de voir avec quelques versets auparavant, que cette humilité habite Jésus, et c'est ce qui le caractérise. C'est incroyable de voir justement Jésus, le Fils de Dieu, démontrer une telle attitude d'humilité. Ça devrait nous encourager à avoir cette même attitude que lui. Le verset 29 de Matthieu nous invite à une action. Hein. Il dit, prends mon joug, prends son joug de recevoir ses instructions. C'est alors que nous trouverons du repos. Tout cela si on fait cette action de prendre son joug, de rester sous son regard, alors nous allons vivre ce repos. Ce repos, cette paix, cette joie que seul le Seigneur peut nous donner. Parce que Jésus est doux et humble. C'est quelque chose de tout à fait contraire d'aujourd'hui. Lorsqu'on veut chercher quelqu'un, on va chercher quelqu'un qui est puissant. On va chercher quelqu'un qui peut-être a de grandes choses, est plein de gloire, quelqu'un qui paraît bien, à quelqu'un qui semble fort. Jésus est tout cela aussi. Mais son premier regard, il dit, je suis doux et humble. Venez à moi. Vous avez un droit de crainte. Quel que soit ce que vous avez, venez simplement. Je suis là pour vous. On le voit aussi dans l'exemple hein, du lavement des pieds par Jésus. Lui, le maître, acceptait de faire le travail d'esclave. Normalement, c'était l'esclave qui, lorsque justement les invités arrivaient dans une maison à cause de la poussière, à cause de la marche, ben, l'esclave était là au début pour pouvoir laver les pieds des invités, pour qu'ils puissent vraiment rentrer dans le banquet lavé. Là, on voit comment que quelques temps avant d'être crucifié, Jésus va faire ce geste auprès de ses disciples. Et il le dit de le faire de même. Regardez dans Jean chapitre 13, versets 16 et 17. Jean chapitre 13, versets 16 et 17. Vraiment, je vous l'assure, un serviteur n'est jamais supérieur à son maître, ni un messager plus grand que celui qui l'envoie. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux à condition de les mettre en pratique. Donc nous sommes encouragés justement de faire de même. On voit l'exemple de Jésus, l'humilité. On voit comment il sert même ses propres disciples. Il est prêt à s'abaisser, à se mettre à genoux devant ses disciples. Et il nous demande, ayez cette attitude, ayez cette attitude d'humilité. Soyez humble, comme moi-même je suis humble. Comme je dis, aujourd'hui c'est une attitude qui n'est pas forcément encouragée dans notre société. Aujourd'hui, on préfère écraser l'autre. On préfère passer par le par-dessus. On veut prendre sa place comme au travail. Combien de fois au travail on entend que justement c'est la bagarre pour trouver avoir un meilleur poste, pour voir si on peut justement passer à avoir un meilleur salaire, un meilleur poste. On est prêt à écraser, on est prêt à faire à manipuler, prêt à faire plein de choses. Mais Jésus nous démontre l'importance de l'humilité. Donc, par son exemple, il veut nous démontrer que nous devons faire de même. Non pas dans le sens que nous soyons supérieurs, qu'on se sent supérieur aux autres, qu'on pense plus grand que les autres, mais d'agir comme un serviteur qui est prêt à se humilier, comme Jésus l'a fait. Simplement pour démontrer cette vérité, que personne n'est plus grand que l'autre, que chacun peut estimer l'autre supérieur à nous. Prochain vient donc, on voit dans le dictionnaire Larousse, et tu vois un peu la définition du mot humilité. Voici ce qu'il dit. Sentiment, état d'esprit de quelqu'un qui a conscience de ses insuffisances, de ses faiblesses et est prêt à porté à rabaisser ses propres mérites, avouer ses fautes avec humilité. État d'esprit de quelqu'un qui a conscience de ses insuffisances. Seigneur, je ne suis rien, je suis juste un homme, je suis juste une femme. Toi, tu es grand, tu es puissant. Je veux simplement me courber devant toi parce que tu as tout. Et tout. Le but à travers de ce texte de 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, qui parle de s'humilier, ce n'est pas de nous écraser devant l'autre, mais d'avoir une harmonie où chacun a sa vraie place, se respecte mutuellement, sert l'autre dans le but de l'aider, et ça va même aussi justement de aider l'autre avant nous-mêmes. C'est ça le véritable amour que Jésus veut nous donner et veut que nous partageons autour de nous. On a dit, ce n'est pas dans la nature de l'homme ou de la femme d'accepter l'autre supérieur à moi. Pourquoi je devrais considérer l'autre comme supérieur et le servir? Pourquoi moi? Pour avoir cette pensée d'humilité, pour avoir cette bonne attitude, ça demande un effort. Parce que comme nous l'avons vu, ce n'est pas dans nos gènes, ce n'est pas dans nos habitudes normales de se rabaisser devant l'autre, de servir l'autre en toute humilité. Et regardez qu'est-ce qu'il est dit dans Matthieu chapitre 23, verset 12. Matthieu chapitre 23, verset 12, qui dit, car celui qui s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse lui-même sera élevé. Car celui qui s'élève sera rabaissé, celui qui s'abaisse lui-même sera élevé. Donc on voit que le Seigneur nous encourage à avoir cette attitude d'humilité devant les autres. C'est alors que nous serons élevés aux yeux de Dieu. Et c'est vrai que sur terre, nos souffrances, nos épreuves permettent que nous puissions avoir cette attitude d'humilité. Parce que dans ces temps-là, c'est là qu'on a besoin d'aide, c'est là qu'on a besoin du courage de Dieu pour traverser ces temps difficiles. Souvent, et on le voit surtout peut-être aussi, des fois, surtout peut-être plus les hommes aussi, quand des fois on a l'impression qu'on est tout en bonne forme, que toute la vie nous sourit, on fait des belles choses, et du jour au lendemain, on est terrassé par une maladie, par une épreuve, et là on réalise que la vie ne vaut pas grand-chose. On voit que tout ce que nous projetons, tout ce qu'on a fait, dire, mais Seigneur, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Des fois, le Seigneur permet ces épreuves pour justement pour nous rabaisser, pour nous dire, mais reste humble, moi je m'aime dans ce temps de souffrance, je veux te parler, même dans ce temps de souffrance, je veux faire quelque chose avec toi. La souffrance, des fois, nous démontre que par nous-mêmes, on ne peut pas s'en sortir et qu'on a besoin de l'autre, on a besoin de Dieu. Malgré nos connaissances, nos diplômes et tout ce que nous sommes devant la souffrance, on est souvent anéanti et sans force. Et c'est à ce moment-là que justement on peut compter sur le Seigneur pour la force, pour nous donner la force de résister, pour surmonter ces temps difficiles, pour nous donner la confiance et la paix que nous sommes en Dieu qui va veiller sur nous. Voilà l'importance de rester humble, afin de reconnaître que nous avons besoin jour après jour de la grâce, de la force de notre Seigneur, afin de continuer justement de rester fidèle et de l'adorer lui seul. Colossiens chapitre 3, verset 12 nous donne justement les traits de caractère que le Seigneur veut pour nous. Colossiens chapitre 3, verset 12 nous dit, ainsi, puisque Dieu vous a choisi pour lui appartenir et qu'il vous aime, revêtez-vous d'ardente bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience. Paul va nous encourager justement à avoir cette attitude d'humilité, ainsi que d'autres aspects comme la bonté, la bienveillance, la douceur, la patience. Dans ce texte, il n'est pas simplement dit, ben, prenez, choisissez celui qui est plus facile pour vous. Peut-être que vous avez plus de patience, peut-être que vous avez plus de bienveillance. Non, il nous demande d'avoir ces traits de caractère. Ça, c'est le trait de caractère véritable, la véritable disciple de Jésus-Christ. Prochain vient. Mais il faut que cette humilité soit juste et vraie. Parce qu'on peut avoir une humilité faussée pour démontrer devant les autres que nous sommes humbles. Et Paul avertit les Colossiens dans quelques versets auparavant. Colossiens chapitre 2, verset 18. Colossiens chapitre 2, verset 18. Il dit, ne vous laissez pas condamner par ces gens qui prennent plaisir à s'humilier et à s'adonner à un culte des anges. Ils se livrent à leur vision, ils sentent d'orgueil sans raison, poussés par leur pensée toute humaine. Peut-être que Paul, en écrivant ce texte, en rappel de ses anciens confrères, les pharisiens, qui voulaient tellement démontrer qu'ils étaient des croyants, qu'ils étaient bons, qu'ils faisaient toutes sortes d'humilité, qu'ils faisaient toutes sortes de dons, de dîmes, qu'ils faisaient toutes sortes de jeûnes pour démontrer aux autres qu'ils étaient justes devant Dieu. Et combien de fois que Jésus-Christ leur a dit qu'ils étaient à côté de la plaque, ils étaient à côté parce qu'ils avaient l'extérieur d'un croyant ou d'un bon chrétien. Mais l'intérieur était mort. Dieu a horreur de ceux qui font semblant d'être des bons chrétiens, qui sont enflés d'orgueil, des personnes qui aiment démontrer devant les autres qu'ils sont humbles, mais qui en réalité sont complètement le contraire. Alors cette phrase de 2 Chroniques 7, 14, si mon peuple est appelé de mon nom, s'humilie. Celui qui s'abaisse, celui qui reconnaît qu'il ne peut rien sans Dieu, Il reconnaît ses erreurs, ses manquements, ses faiblesses, qu'il s'humilie d'un cœur repentant, alors Dieu va l'écouter. Si nous reconnaissons que nous sommes en la présence du Dieu Tout-Puissant, celui qui nous a créés, celui qui nous a donné le souffle jour après jour, alors nous devons être humbles devant sa majesté, reconnaître que nous sommes tout petits devant son immensité, que nous sommes pécheurs devant le Dieu trois fois saint. Donc ce matin, nous sommes appelés à avoir cette véritable humilité devant notre Seigneur et devant l'Église. Pas juste ce matin lorsqu'on est rassemblés tous ensemble comme aujourd'hui, mais à tous les jours, à tout moment, autant lorsque nous sommes avec nos frères et sœurs chrétiens que lorsque nous sommes avec des personnes qui suivent les principes de ce monde, au travail, avec le voisinage, nous devons avoir cette attitude d'humilité, d'être humble. Ce matin, on va prendre justement un temps de se mettre aux pieds de Jésus, de réaliser tout ce qu'il est pour nous. Le Fils de Dieu est venu humblement sur terre pour nous montrer le chemin, pour nous accorder le salut de notre vie. Et il veut dire maintenant, vas-y, fais de même. Que tu puisses, à travers cette humilité, me reconnaître. Que tu puisses, à travers cette humilité aussi, donner aux autres témoignage de qui je suis. Même si je suis le Dieu trois fois saint, le Dieu tout-puissant, je viens humblement devant toi pour t'apporter la grâce, la paix. Et on va le rappeler tout à l'heure, justement, à travers la Sainte Cène, qui est un rappel justement de toute l'humilité de Jésus, qui a accepté de mourir, lui le juste, pour les humains qui étaient pécheurs et perdus comme nous. Alors simplement, ce que nous allons faire, c'est qu'on va prendre maintenant un chant pour vous préparer à nous prosterner devant la présence de Dieu et laisser vraiment l'Esprit de Dieu nous travailler. Comprendre, réaliser réellement que lorsque nous allons prendre cette Sainte Cène aujourd'hui, tout ce que ça comporte, et surtout du côté de l'humilité. Nous allons faire peut-être cette Sainte Cène un peu différente. On va un peu plus aller dans profondeur sur certains textes pour qu'on puisse comprendre, saisir réellement ce que dit. Si nous voulons que vraiment ce texte de 2 Chroniques 7,14 fonctionne, si nous voulons vraiment que Dieu entende nos prières et guérisse notre pays, guérisse notre vie, guérisse notre famille, alors nous avons besoin de nous humilier. On a besoin de confesser que seul Dieu est vrai. On a besoin de confesser qu'on a encore besoin de sa grâce et que par nous-mêmes, on n'est pas capable de le faire. Alors, je vous invite simplement à laisser l'Esprit de Dieu vous imprégner, de vous montrer s'il y a des choses encore dans votre vie qui ne glorifient pas Dieu. De dire, Seigneur, ce matin, je ne veux plus me battre avec. Je veux te laisser à tes pieds. C'est peut-être des façons de faire dans votre vie qui ne glorifient pas Dieu, qui ne sont pas forcément un péché, mais qui prennent trop de temps. Peut-être l'Internet, les jeux, le travail, d'autres choses. Et que vous n'avez pas le temps de vraiment glorifier Dieu. Vous n'avez pas le temps d'être dans sa présence. Demandez encore sa grâce. Pour dire, Seigneur, je veux pas dire oui, je veux le faire, puis demain, puis je continue demain comme avant. Mais Seigneur, aujourd'hui, je m'engage à m'humilier, je confesse que j'ai besoin de prendre ce temps. Prendre ce temps avec toi. Prendre ce temps pour pouvoir être sous ton regard. De comprendre, de saisir tout ce que tu as fait pour nous. Je crois que le Seigneur veut guérir, veut nous guérir, veut guérir cette Église, veut guérir ce pays. Devant tout ce qu'on voit aujourd'hui autour de nous, seule la prière, seule l'humilité, seule la façon de se détourner d'une mauvaise voie va nous permettre que Dieu nous écoute et que Dieu va guérir notre pays. Il n'y a pas 50 solutions. On peut faire toutes sortes de stratégies dans l'Église, on peut faire toutes sortes de choses. Si on n'a pas cette attitude, alors on risque de passer à côté. Alors j'aimerais inviter le groupe de louanges à venir vous inviter dans ce temps de confession. Si vous sentez que vous devez vous lever, vous mettre à genoux, sentez-vous à l'aise. On veut vraiment dire, Seigneur, ce matin, je veux me présenter devant ton trône céleste, je veux reconnaître ta majesté. Je veux reconnaître que j'ai besoin encore de toi. J'ai besoin de m'humilier devant le trône éternel. Dieu veut encore guérir. Nous croyons que la Sainte Cène, ce n'est pas simplement juste un rappel de ce que Jésus a fait, Mais la Sainte Cène, c'est un moment où on peut être guéri, restauré. Nous demandons le pardon de nos péchés, nous demandons la guérison. Et Dieu veut écouter et Dieu veut agir. J'ai déjà vu dans le passé, à travers les dons de Sainte Cène, des gens être guéris, restaurés dans leur être. Alors, ouvrons notre cœur et que Dieu puisse nous parler ce matin. Nous restons dans cette attitude pour entendre cette invitation à venir dans sa présence. Nous a dit, si vous vous repentez sérieusement et sincèrement de vos péchés, si vous vivez dans l'amour et dans la paix avec votre prochain, si vous menez une nouvelle vie en suivant les commandements de Dieu, si vous marchez dans ses saintes voies, si vous approchez de lui par la foi, si vous prenez ce Saint-Sacrement pour votre consolation, adressez dans une humble prosternation cette confession honnête au Dieu Tout-Puissant. Donc que nous puissions unir nos voix, votre esprit dans cette confession. Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Créateur de toutes choses, juge de tous les humains, nous confessons que nous avons péché et que nous sommes profondément attristés en pensant à toutes les choses mauvaises de notre vie passée. Nous avons péché contre toi, ô Dieu Saint, et contre ton amour. Nous ne méritons que ton indignation et ta colère. Nous nous repentons et nous regrettons profondément d'avoir mal agi et de ne pas avoir accompli les actes que nous aurions dû faire. Nos cœurs sont contrits et nous reconnaissons que nous sommes désespérés sans ta grâce. Accorde-nous ta clémence, Père miséricordieux. Pardonne-nous par égard pour ton Fils, notre Sauveur Jésus-Christ, qui est mort pour nous. Pardonne-nous et purifie-nous. Donne-nous la force de te servir et de plaire en nouveauté de vie. En ton honneur et en louant ton nom, grâce à Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, on va continuer par un chant qui dit « Pardon, Seigneur, pardon ». C'est le temps, justement, aussi, de continuer dans cette confession et de reconnaître nos manquements, nos péchés. De venir simplement les déposer à ses pieds. Il est là, il nous écoute, il veut nous pardonner, il veut nous rétablir.
Pendant que la musique continue doucement, réfléchissons à toutes ces paroles que nous venons de chanter. Pardon pour notre orgueil, nos résistances, et enlever nos suffisances, chasser notre arrogance. Pour ton pensée impure, changer nos cœurs si durs, nos raisonnements obscurs. Pardon, Seigneur, pour tant de paroles mauvaises et adoucir nos mots, nos lèvres, que nos querelles s'apaisent. Toujours garder rancune et en changer notre amertume, transformer notre attitude. Alors, le Seigneur veut simplement maintenant que nous puissions à haute voix ou simplement dans notre tête de prier. Peut-être qu'il y a une querelle qui est là parmi vous, avec un membre de la famille, avec un collègue, un voisin. C'est le temps de demander pardon. C'est le temps de faire un chemin vers le Seigneur. Peut-être qu'il y a des paroles mauvaises que vous avez dites à votre mari, à votre femme, à vos enfants, à quelqu'un. C'est le temps aussi de demander pardon. C'est le temps aussi de demander la grâce pour pouvoir aussi aller demander pardon après à la personne. Peut-être trop de suffisance, trop d'arrogance devant la vie, devant les choses qu'on reçoit dans la vie, devant nos pères, nos pensées. Alors simplement, soyons francs envers le Seigneur. Cet esprit veut entendre nos cœurs, le Seigneur veut entendre nos cœurs ce matin, réellement, pour que nous puissions nous humilier, confesser, afin qu'on puisse être délivré, changé, transformé par son sang.
Restons dans cet esprit d'humilité, continuons cette confession en disant justement ensemble la prière que Jésus nous a enseignée à ses disciples. Tous ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, pardonne-nous aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen.
Ô Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, qui, de ta grande miséricorde,
a promis le pardon à tous ceux qui se tournent vers toi avec une repentance et une foi sincère. Sois miséricordieux envers nous. Pardonne-nous et délivre-nous de nos péchés. Fortifie-nous et rends-nous fidèles en toute bonté et conduis-nous dans la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Alors, on vous invite à venir. Écoutons cette prière de communion spirituelle. Nous ne venons pas à ta table, au Seigneur miséricordieux, avec orgueil et suffisance, et croyant notre propre justice, mais nous comptons sur ta grâce abondante et infinie. Nous ne sommes pas dignes de ramasser les miettes sous ta table. Toi, au Seigneur, tu ne changes pas dans ta miséricorde, parce que tu es amour. Accorde-nous donc, Dieu de miséricorde, Dieu de grâce, de manger à ta table de manière à recevoir en esprit et en vérité le corps de ton cher Fils, Jésus-Christ, de même que les mérites accordés par ton sang versé, afin qu'étant lavé et purifié par son sang précieux, nous puissions vivre et croître à sa ressemblance, nous en lui et lui en nous. Entends-nous, ô Père miséricordieux, car nous demandons humblement de nous accorder en prenant ce pain et cette coupe, comme il a ordonné en mémoire de sa passion et de sa mort, de participer à son sang et à son corps très saint. Dans la nuit où il fut livré, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit en disant, en donnant à ses disciples en disant, « Prenez et mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après le repas, il prit la coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est répandu pour vous et pour plusieurs. » Pour la rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Seigneur, on te remercie ce matin de ce temps qu'on a pu passer devant, dans ta présence, devant cette table. Tu nous montres, Seigneur, on a besoin de venir humblement devant toi. Pour tout ce que tu as fait pour nous. Il y a plus de 2000 ans, mais qui est tellement vrai encore aujourd'hui. Tu veux nous rappeler l'importance de confesser nos fautes, nos péchés, nos manquements, nos suffisances, afin que, Seigneur, tu puisses nous pardonner, afin que tu puisses nous laver, nous purifier. Mais, Seigneur, comme on l'a vu aujourd'hui, nous voulons que nos prières soient entendues par toi. Nous voulons venir avec un cœur humble, avec un désir profond d'être changé par toi, de reconnaître nos manquements, nos fautes, nos péchés, pour que, Seigneur, tu puisses nous délivrer, tu puisses nous écouter, tu puisses nous guérir. Seigneur, nous ne croyons pas la foi que tout ce que nous avons dit, tout ce que nous avons parlé dans notre cœur ou à haute voix, tu l'as entendu. Et que tu es en train de continuer de nous transformer. Tu continues, Seigneur, de nous changer. Nous, ainsi que nos familles. Tu continues de nous transformer pour que nous puissions être aussi ce témoignage autour de nous. Là, oui, Seigneur, dans ce temps de fête où le monde va beaucoup fêter autre chose que toi, nous voulons nous rappeler, que tu es venu humblement dans une crèche, mais tu es venu apporter ta paix. Tu l'as dit, Seigneur, qu'on l'a vu aujourd'hui, tu es doux et humble de cœur. Et tu t'attends encore, tu veux encore que les hommes et les femmes puissent venir à tes pieds. Alors, Seigneur, que nous puissions inviter nos amis, nos frères et sœurs, nos familles, nos connaissances à venir dans ta présence et à goûter à quelque chose de merveilleux avec toi. Oui, Seigneur, nous voulons prier durant ce mois de décembre afin que les hommes et les femmes puissent encore trouver ta paix, ta véritable paix, qu'ils puissent être pardonnés de leurs péchés, qu'ils puissent être transformés, purifiés pour vivre une nouvelle vie avec toi. Alors, merci, merci pour ce sang, merci pour ce corps qui a été martyrisé pour nous, pour nous donner la vie. Merci pour ce sang qui nous lave, qui continue de nous laver et nous purifier. Alors nous voulons nous réjouir, nous voulons te remercier, nous voulons continuer, Seigneur, de te servir avec humilité, avec suffisance devant toi, et avec tout ton amour, toute la passion que tu nous donnes, parce que tu es notre seul Seigneur, tu es notre Dieu. Nous voulons continuer, dire haut et fort, oui, merci. Merci Seigneur Jésus pour ce sacrifice, merci pour ce sang, merci pour ce que tu as fait pour nous. Gloire à ton nom, Seigneur, gloire à ton nom. Amen.
Amen. Amen.